Récits d'histoire.
Bonjour, j'ai choisi de revenir sur le génocide des Tutsis au Rwanda, qui a profondément meurtri ce pays en 1994. Tout commence par une idéologie raciste pendant la période coloniale, puis juste après l'indépendance de la République rwandaise en 1962. Cette République belge a contribué à un discours de haine et d'animalisation de la minorité Tutsi au sein de la population Hutu. Écoutons un extrait du discours du film Hôtel Rwanda, un film qui raconte du début à la fin le génocide des Tutsis par les Hutus. Il a été réalisé par Thierry Georges et sorti en 2004 et le 30 mars 2005 en France.
Quand les gens me demandent pourquoi je déteste autant les Tutsis, je leur réponds, lisez notre histoire. Les Tutsis étaient les collaborateurs des colons belges. Ils ont volé la terre des Hutus, ils nous ont dépossédés et ils sont revenus, ces espèces de rebelles. Ce sont des cafards. Ce sont des meurtriers. Le Rwanda est la terre des Hutus. Nous sommes majoritaires. Ils sont une minorité de traîtres et d'envahisseurs. Nous éradiquerons l'infection. Nous les éliminerons, tous ces rebelles RPF. Vous êtes sur RTLM, la radio de la force Hutu. Restez sur vos gardes. Surveillez vos voisins.
Ce discours est publié en octobre 1993 par la radio Mille Collines. Puis le 6 avril 1994, le président Habyarimana est victime d'un attentat dans son avion par des extrémistes Hutus. Ce sera l'élément déclencheur du génocide de 1994 au Rwanda. Cet événement est suivi d'une grande extermination majeure sur le territoire rwandais. Par ailleurs, aujourd'hui, on estime que 60% des victimes ont été massacrées au cours de ces trois premières semaines. Ce génocide a été qualifié de génocide de voisins car le projet génocide élaboré par les instances dirigeantes du Rwanda reposait sur l'extermination des Tutsis par des personnes proches, leurs voisins, qu'elles connaissaient et fréquentaient depuis toujours. Ce qui est affreux dans ce génocide, c'est que toutes les armes étaient autorisées. 40% des victimes sont tuées à coups de machettes, de pointes de lance, de maillets et sûrement d'autres encore. Ces objets d'usage domestique sont détournés pour devenir des armes de mise à mort. Les armes à feu sont utilisées par l'armée et les miliciens. 12% des Tutsis sont exterminés en seulement 3 mois dans le pays. C'est entre 800 000 et 1 million de victimes.
Le génocide a profondément marqué le Rwanda, mais aussi les pays limitrophes et leur population. Des artistes très célèbres en France et en Belgique.
Oui, ainsi Gaël Faye et Stromae ont vécu ce génocide. Leurs œuvres nous transmettent leurs souffrances. Par exemple, Stromae avec la musique Papa Hutu.
Dis-moi où es-tu caché, ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es?
Il n'avait alors que 5 ans quand elle devait rendre visite à son père en 1994 au Rwanda, car il habitait avec sa mère qui était belge. Mais elle n'a pas pu le rencontrer car Stromae a été transféré en urgence après avoir contracté le paludisme. Il n'aura vu qu'une vingtaine de fois son père avant qu'il se fasse assassiner par les Hutus en 1994. Gaël Faye, quant à lui, a écrit le roman Mémoire, Jacaranda. Il raconte le génocide à travers les yeux de Milan, un garçon de 12 ans qui vit en France. Il nous fait vivre ses émotions et ses pensées à travers ses chansons comme la musique Kwibuka et Petit Pays.
Zoé, tu as choisi deux extraits de œuvres littéraires de Gaël Faye. Nous t'écoutons.
J'ai choisi Petit Pays et j'ai pris deux petits extraits. Premier extrait. Le Rwanda était devenu un immense terrain de chasse dans lequel le Tutsi était le gibier. Un humain coupable d'être né, coupable d'être. Une vermine aux yeux des tueurs, un cancre là qu'il fallait écraser. Deuxième extrait. La guerre entre les Tutsi et les Hutus. C'est parce qu'ils n'ont pas le même territoire ? Non, ils n'ont pas le même pays. Alors, ils n'ont pas la même langue ? Si, ils parlent la même langue. Alors, ils n'ont pas le même Dieu ? Si, ils ont le même Dieu. Alors, pourquoi se font-ils la guerre ? Parce qu'ils n'ont pas le même nez.
Gatoyi, gahugu kaniniya, warapfunywe ni wapfuye, waragowe ni wagoka, gahugu gatoyi.
Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs.
Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez, mon existence avait bien commencé, j'aimerais recommencer depuis le début, mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guissény. On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. Alors petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapunweni wapuye, waragoweni wagoka. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya.
Petit bout d'Afrique, perché en altitude, je doute de mes amours, tu resteras ma certitude, réputation recouverte d'un linceul. Petit pays, pendant 3 mois, tout le monde t'a laissé seul. J'avoue, j'ai plaidé coupable de vous haïr quand tous les projecteurs étaient tournés vers le Zaïre. Il fallait reconstruire mon petit pays sur des ossements, des fosses communes et puis nos cauchemars incessants. Petit pays, te faire sourire sera ma rédemption. Je t'offrirai ma vie, à commencer par cette chanson. L'écriture m'a soigné quand je partais en vrille. Seulement laisse-moi pleurer quand arrivera ce maudit mois d'avril. Tu m'as appris le pardon pour que je fasse peau neuve, petit pays. Dans l'ombre, le diable continue ses manœuvres. Tu veux vivre malgré les cauchemars qui te hantent. Je suis semence d'exil, d'un résidu d'étoiles filantes.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapunweni wapuye, waragoweni wagoka. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya.
Un soir d'amertume, entre le suicide et le meurtre, j'ai gribouillé ces quelques phrases de la pointe neutre de mon feutre. J'ai passé l'âge des pamphlets, quand on s'encanaille, je connais que l'amour et la crainte que celui-ci s'en aille. J'ai rêvé trop longtemps de silence et d'aurore boréale. À force d'être trop sage, je me suis pendu avec mon auréole. J'ai gribouillé des textes pour m'expliquer mes peines, Bujumbura et ma luciole dans mon errance européenne. Je suis né il y a longtemps, un mois d'août, et depuis, dans ma tête, c'est tous les jours la saison des doutes. Je me navre et je cherche un havre de paix. Quand l'Afrique se transforme en cadavre, les époques, ça meurt comme les amours, man. J'ai plus de sommeil et je veille comme un zamou. Laissez-moi vivre, parole de misanthrope, citément un seul de rêve qui soit allé jusqu'au bout du sien propre.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapunweni wapuye, waragoweni wagoka.
Petit pays, quand tu pleures, je pleure. Quand tu ris, je ris. Quand tu meurs, je meurs. Quand tu vis, je vis. Petit pays, je saigne de tes blessures. Petit pays, je t'aime, ça j'en suis sûr.
Warapunweni wapuye, waragoweni wagoka. Gaugu gatoyi.
Avec Zoé, d'évoquer les génocides des Tutsis au Rwanda, l'extermination de près d'1 million de personnes en 3 mois. Le viol a été pratiqué de manière systématique. Le viol est-il une arme de guerre contre les autres? C'est la question à laquelle Lily Yang essaye de répondre.
Bonjour, quand on évoque la guerre, on pense immédiatement aux armes, aux bombes, aux combats, aux stratégies militaires. On parle de territoires conquis, de victoires, de défaites, de chiffres. Mais il existe une arme dont on parle beaucoup moins, une arme silencieuse, invisible et pourtant redoutablement efficace, le viol. Dans de nombreux conflits armés, le viol n'est pas un acte isolé, ni une conséquence incontrôlée du chaos. Il est utilisé de manière réfléchie, organisée, comme une véritable stratégie de guerre. Son but n'est pas seulement de faire souffrir une personne, mais de terroriser une population entière, de briser les liens sociaux et de détruire les communautés de l'intérieur. L'exemple le plus marquant en Europe est celui de la guerre de Bosnie en 1990. Des dizaines de milliers de femmes ont été violées de façon répétée, parfois dans des camps spécialement organisés à cet effet. Ces violences visaient à humilier les victimes, mais aussi à détruire symboliquement leurs familles et leurs communautés. Le corps des femmes devenait alors un outil de domination, un message envoyé à l'ennemi.
Mais la Bosnie n'est pas un cas isolé.
On retrouve cette stratégie dans d'autres conflits. Au Rwanda, lors du génocide de 1994, en République démocratique du Congo, en Irak, en Syrie et encore aujourd'hui, dans certains conflits contemporains comme l'Ukraine. Le viol sert à semer la peur, à forcer les populations à fuir, à imposer une domination durable, même après la fin des combats. Les conséquences de ces violences sont immenses. Le viol ne détruit pas seulement un corps, il détruit des vies. Il laisse des traumatismes psychologiques profonds, souvent invisibles. Stress post-traumatique, dépression, culpabilité imposée aux victimes.
Et aux séquelles physiques et psychologiques s'ajoutent parfois des séquelles sociales.
Dans certaines sociétés, les femmes violées sont rejetées, réduites au silence, parfois même exclues de leur propre famille. Des enfants naissent de ces violences, portant eux aussi les traces du conflit.
Et que dit le droit de la guerre sur ces viols ?
Pendant très longtemps, ces armes ont été considérées comme des dégâts collatéraux de la guerre. On pensait autrefois que les violences sexuelles en temps de guerre étaient inévitables, presque normales. Ce silence social, institutionnel, a permis aux bourreaux d'agir en toute impunité. Un tournant a toutefois eu lieu dans les années 1990, après la guerre de Bosnie, pour la première fois des tribunaux internationaux reconnaissent le viol comme un crime de guerre et crime contre l'humanité. Les témoignages de femmes comme Sabina Subasic ont révélé l'ampleur de ces crimes. Aujourd'hui, des militants et des chercheuses comme Céline Bardet poursuivent ce combat. Elles rappellent que la justice est encore trop lente et trop inaccessible pour beaucoup de victimes.
Alors, le viol est-il une arme de guerre comme les autres ?
Oui, car il est utilisé de manière stratégique pour terroriser, pour dominer et détruire. Non, car ses effets sont particuliers. Il brise les identités, les mémoires et les liens sociaux. Bien au-delà des combats, le reconnaître comme une arme de guerre spécifique, essentielle pour la justice, pour la mémoire des victimes et pour une paix durable.